J'ai vu une photo avec un petit texte cette semaine et puis elle m'a beaucoup parlé. Et puis ma méditation plus mes situations personnelles ont amené à cette réflexion. Peut-être on peut mettre la première diapo. Je ne sais pas si je reste là, est-ce que je la prends dans la figure ou est-ce que ça passe par-dessus ? Ça passe par-dessus. Mais du coup, vous le voyez quand même ? Ouais ? Pas à peu près. Je me décale un tout petit peu, mais je veux vous voir quand même. Ah, ça va. Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte. Soyez plein de force, des hommes et des femmes, bien sûr, auxquels il ne manque rien. C'est un verset qu'on connaît, je pense. Je veux juste préciser deux, trois choses. L'épreuve n'est pas un sujet de joie parce qu'elle est une épreuve. Donc ça, il faut déjà éliminer. On ne se réjouit pas des épreuves. Ça, je pense, on le sait tous. Mais la deuxième chose, peut-être un tout petit peu plus subtile, on ne se réjouit pas non plus de la souffrance comme si elle nous faisait mériter quelque chose. Ça, c'est un piège dans lequel on tombe plus facilement. S'imaginer que ça fait plaisir à Dieu quand on souffre et que c'est pour ça qu'après on aurait une récompense quelconque. Dieu n'aime pas qu'on souffre. Simplement, il y a certaines choses qui ne peuvent pas se faire sans que ça fasse mal. Mais ce n'est pas le but que ça fasse mal. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment important parce que sinon, s'il y avait un moyen que les transformations, que les choses se passent, que nos vies progressent sans souffrance, Dieu l'utiliserait. Parce que sinon, c'est grave si on peut penser que Dieu a d'autres solutions, mais il dit, tiens, ça m'amuse de les voir souffrir, voir un peu comment ils réagissent, voir s'ils sont assez forts. Non, c'est que dans le monde où on est, dans les conditions qui sont, dans les règles du jeu qui ont été établies lorsque l'humanité a été lancée sur Terre, il se trouve qu'il y a des choses qui sont inévitables à cause de nos propres manquements en tant qu'humanité, pas nous personnellement, à cause du péché qui règne sur Terre, à cause de plein de choses qu'on comprend ou qu'on ne comprend pas. Mais donc déjà, on élimine ces deux choses. On ne se réjouit pas parce qu'il y a une épreuve. Et puis, Dieu n'est pas content parce qu'on souffre. Maintenant, si on élimine ça, de quoi nous parle ce verset alors ? Pourquoi on devrait être heureux ou considéré dans d'autres traductions comme un sujet de joie, le fait qu'il y a des difficultés qui arrivent sur nous. Il y a peut-être d'autres choses, mais en tout cas, ce qui pour moi est un sujet de joie quand l'épreuve arrive, c'est l'idée qu'elle va s'arrêter. Ça aussi, ça passera. C'est qu'on est dans le tunnel et on voit quand même si c'est gros comme une tête d'épingle, la lumière au bout. Il y a une fin. Je dirais, dans le cas extrême, et je dis ça sérieusement, sans plaisanter, même si la fin, c'était qu'à un moment, on va quitter cette terre. Mais c'est la fin. Et ce n'est pas la fin. Ce sera la fin d'une épreuve pour entrer dans une lumière, alors là, nettement supérieure, durable, plus belle, plus grande, etc. Mais il y a toujours une fin. Et la sortie va être un sujet de joie. Et puis aussi, bien sûr, ce que ça va produire en nous. Parce que, comme je l'ai dit, si Dieu ne se réjouit pas qu'on souffre pour souffrir, par contre, il sait l'utiliser. Il y a une part de mystère pour moi là-dedans, parce qu'effectivement, on pourrait se dire, un Dieu tout-puissant, il aurait pu trouver d'autres moyens. Mais on voit que lui-même, en venant sur Terre, a été soumis à cette règle-là. Dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit qu'il a dû apprendre, même qu'il soit le Fils de Dieu, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc il n'y avait pas de raccourci pour lui non plus. Et je dirais même qu'il y est passé au plus profond qu'on puisse y passer. Et donc, il y a plusieurs choses à se rappeler quand on est dans ces moments-là. Et une d'entre elles, c'est qu'il y a une limite aux pressions qui sont mises sur nos vies. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est une chose très très importante qui me rassure. Parce que, bien sûr, notre évaluation à nous des difficultés, elle est obligatoirement subjective. Ce n'est pas un mal, ce n'est pas un péché. Mais quand on évalue l'épreuve qui arrive, ça me résonne pas mal dans les oreilles, je ne sais pas pourquoi, si c'est les retours qui sont forts. Quand on évalue l'épreuve qui nous arrive dessus, à moins que je sois le seul, j'ai toujours l'impression qu'elle est largement supérieure à ma capacité de supporter. Hein. C'est un peu comme quand vous prenez une remorque, il y a marqué l'essieu résiste à 300 kg, puis on vous dit, vous pouvez mettre ce gros caillou de 500 kg, mais non, pas possible. Quoi. Donc, mon évaluation, elle est toujours comme ça. Quoi. Cette épreuve-là, non. Celle-là, à la rigueur, celle-là, oui, celle-là, peut-être, mais celle-là, elle est trop grosse pour moi. Et là, c'est bien parce qu'il y a des promesses dans la parole de Dieu qui sont pas conditionnelles, mais Dieu peut le faire ou ne pas le faire. Hein. On prie pour les malades, Dieu peut guérir les malades, Dieu guérit les malades, mais Dieu ne guérit pas toujours les malades. Donc quand on prie pour un malade, on espère qu'il va le faire, on croit qu'il peut le faire, on sait qu'il peut le faire, mais on sait aussi qu'il peut-être il va pas le faire. Hein. Tandis que là, le fait que l'épreuve que Dieu permet qui nous arrive dessus ne soit pas plus lourde que ce qu'on peut réellement supporter, c'est toujours. Ce n'est pas des fois, ce n'est pas si je suis assez gentil, si je suis assez spirituel. C'est, hein. La déclaration de Dieu est très très claire. Peut-être mettre la deuxième slide. 1 Corinthiens 10, 13. Les tentations qui vous ont assailli sont communes à tous les hommes. Alors, on n'a pas tous les mêmes choses à supporter. Hein. Notre parcours est unique. Mais et on a toujours l'impression que les épreuves des autres, si on les avait, ça, c'est de la rigolade. Pour les épreuves de Pascal, ça me fait rire. Mais les miennes hein. Mais c'est faux. On est tous dans notre parcours et pour nous, c'est toujours très, 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 très difficile. Donc c'est ça que ça veut dire, sont communes à tous les hommes, c'est pas la même chose, mais c'est la même chose de notre point de vue. D'ailleurs, Dieu est fidèle, il n'y a pas de condition, hein. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. J'ai toujours aimé la formulation de cette phrase. Hein. Au moment où l'épreuve me tombe dessus, lui, il connaît déjà la sortie, moi j'y suis pas, donc je rentre dans le tunnel, lui il connaît la sortie, bien sûr. Et le fait de savoir ça, ça fait partie des choses qui font que je vais pouvoir, on pourrait traduire comme ça hein, quand on étudie dans le texte, marcher en la portant sans qu'elle m'écrase. Dieu rééquilibre les choses, quoi. Si par exemple, moi je suis incapable de porter plus de 200 kilos, et puis il m'arrive une épreuve de 300 kilos sur la tête, et je me dis, non, moi c'est 2, ça c'est 3, c'est même quelqu'un qui ne sait pas compter comme moi, c'est trop lourd. Et là, Dieu intervient et me donne la capacité de porter 300 kilos et 1 gramme. J'ai 1 gramme de manœuvre. Hein, et je marche, et ça ne m'écrase pas, c'est miraculeux, mais je marche. Et puis, je sais qu'il y a une sortie parce que Dieu l'a déjà préparée au moment où il a permis que cette chose-là se passe. Et ça, comme je l'ai dit, quand on lit ce verset, il n'y a pas besoin de savoir lire le grec, l'hébreu ou l'araméen. C'est clair, c'est simple. Il n'y a aucune condition. Il n'y a pas de. C'est juste quelque chose que Dieu nous communique. On a besoin de le savoir. C'est pour ça qu'il faut se le rappeler. Et déjà, ça change la façon dont on va supporter la difficulté. On peut passer à la diapo d'après. Paul a eu sa part et une grosse, grosse part d'épreuves, mais il faut dire qu'il était costaud. Hein. Il avait un essieu au moins de 3000 kilos. C'était du très, 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 très robuste. Il lui arrivait des galères inimaginables dans tous les sens. Quand il fait la liste dans une de ses épîtres, on est impressionné. Hein. On l'a lapidé une fois ou deux, il a dû se battre contre des bêtes dans une arène, il a été agressé, on l'a volé, on l'a fouetté, on l'a laissé pour mort par terre, etc., etc. On rajoute à ça qu'il a été trahi par ses amis, calomnié, il a perdu sa réputation, il a perdu son argent, je ne sais pas ce qu'il n'a pas perdu. Quoi. Mais c'était un increvable, quoi. C'était vraiment du très 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 dur. Et il dit ceci, 2 Corinthiens 4, verset 7. Ce trésor, donc le trésor c'est la vie de Dieu en nous, hein, nous le portons dans des vases faits d'argile que nous sommes, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. Ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresses, et cependant jamais écrasé. Hein, ça se joue à rien, hein. Accablé, mais pas écrasé. Nous sommes désemparés, on ne sait pas quoi faire. Ça vous est déjà arrivé de ne pas savoir quoi faire devant une situation ? Moi, ça m'arrive souvent de ne pas savoir quoi faire. C'est pas, il y a 5 possibilités laquelle je vais choisir, c'est qu'il n'y en a aucune. J'ai le choix entre le mur de devant, le mur de droite, ou le mur de gauche, ou le mur de derrière. Hein ? Désemparé, mais non désespéré. Pourquoi ? Parce que je continue de savoir quelque part pendant que je suis là avec 4 murs autour et un mur au-dessus et une dalle dessous, qu'il y aura une fin, il y a une issue, et Dieu n'a pas mis plus lourd que ce que je pouvais porter. Alors, quel mur il va enlever ? Comment ? Est-ce que c'est moi qui vais passer au travers du mur ? Est-ce que le mur va disparaître ? Est-ce que le sol va s'ouvrir sous mes pieds ? Est-ce que le ciel va s'ouvrir sous ma tête ? Ça, je ne le sais pas. Mais il y aura une solution. Et de le savoir, ça me permet de rester là, désemparé, mais pas désespéré. Persécuté, ben, difficulté de tous sens, hein, dans tous les sens. Alors, c'est vrai que dans nos pays, on a un peu honte d'utiliser ce mot à l'époque où on vit. Parce que persécuter nos frères et sœurs dans beaucoup de pays du monde, ça a un autre sens que ce que nous on dit. Mais encore une fois, notre épreuve, c'est la nôtre. Quand votre patron est injuste avec vous, quand vos voisins sont injustes avec vous, quand les lois sont injustes avec vous, quand, etc., etc., que ce soit pour notre foi ou pas, c'est la même chose. Persécuter, mais non abandonner. Il est avec nous. Et puis, on peut se rappeler que toutes les catégories d'épreuves qui puissent arriver à un être humain, bien sûr, Dieu les connaît parce qu'il est Dieu, mais Dieu, homme, Jésus, les a vécues. Il les a vécues dans un corps comme le nôtre. Hein. La gamme des souffrances physiques, je pense qu'entre la flagellation et la crucifixion, il n'y a pas grand-chose qui lui a échappé. Hein. Quelles que soient nos douleurs, nos maladies, etc., ça, il connaît. Au niveau émotionnel, moral, sa famille qui ne comprend pas qui il est, trahi par un de ses plus proches collaborateurs, etc., etc., coupé de la relation avec son père, le pire de tout. Après, ben, il a eu faim, il a eu soif, il était tellement fatigué qu'il s'endormait dans la journée. Quand, c'est bien de rappeler ça. Quand Jésus dort dans la barque, ce n'est pas parce qu'il s'est dit « je vais faire semblant de dormir pour faire un miracle hein. ». C'est parce qu'il avait passé la nuit à faire autre chose et que quand on est occupé la nuit, on dort le jour, hein, tout simplement. Il était comme nous, avait des limites. Il ne pouvait pas être à deux endroits en même temps. Son ami meurt d'un côté, lui il est à l'autre bout. Ben, en plus, il était à pied à l'époque. Hein. Il fallait qu'il marche. Alors oui, il y a une solution, mais il a vécu en tant qu'humain comme nous. Donc il connaît ces choses-là. Persécuté, mais non abandonné. Terrassé, mais pas anéanti. Des fois, c'est la différence entre les deux, elle est petite. Hein. Mais la petite différence entre ces deux mots à chaque fois, c'est l'espace qui nous reste pour encore respirer. Encore faire un pas, encore respirer une fois. Que le cœur batte encore une fois, jusqu'à encore une fois, encore une fois, encore une fois. Et vous savez, je me rappelle avoir entendu Richard Wurmbrand, ce pasteur roumain qui a fait 14 ans de prison, et puis qui racontait ben, dans ses 14 ans de prison, parce que la prison c'était rien, il a vécu des périodes, je crois que c'est 3 ou 4 ans à l'isolement complet, et sur ces périodes d'isolement complet il a eu des périodes de plusieurs mois où il était dans une cellule où il pouvait ni s'asseoir ni se lever, ni s'appuyer en plein sur les côtés parce qu'il y avait des pointes de partout, donc il devait être comme ça là. Et puis s'il s'endormait il était réveillé par les pointes qu'il y avait dans le truc. Et il disait, pour ne pas devenir fou, il comptait les battements de son cœur et il répétait Jésus à chaque battement de cœur en se disant, après je vais mourir, mais je vais tenir encore un battement de cœur. Et il a tenu très longtemps comme ça. Il y a aussi cette belle histoire vraie racontée par Saint-Exupéry, cet aviateur qui s'écrase dans la cordillère des Andes, très très haut, en hiver. De toute façon, même en été. Enfin, là, c'était en hiver. Donc, avec de la neige, température incroyable. Et puis, il se dit, bon, ben voilà. Il ne meurt pas hein, quand l'avion s'écrase, mais il est perdu là-dedans. Il se dit, je vais mourir. Et tout d'un coup, il se rappelle qu'il a une assurance vie, mais que si on ne retrouve pas son corps, il faudra 10 ans avant que sa femme et son enfant touchent l'assurance vie. Et il se dit, Si je meurs là, quand la neige va fondre, ça va emporter mon corps, on ne le retrouvera plus. Et il voit 500 mètres plus bas un espèce de gros rocher comme ça. Et si j'arrive jusqu'au rocher, que je meurs contre ce rocher, quand la neige fondra, que les avions viendront survoler, on verra mon corps et ma femme aura l'assurance, quoi. Donc il se met en marche et il a marché 4 jours et 4 nuits. Bon, quand on l'a retrouvé, on a dû lui amputer les mains et les pieds qui étaient gelés, le nez, etc. Et puis on lui disait, mais comment tu as fait ça ? Il disait, juste un pas de plus, juste un pas de plus, juste un pas de plus. Et quand on l'a retrouvé, en tout cas Saint-Exupéry dit, que la première phrase qu'il a dit, il a dit, ce que j'ai fait, une bête ne l'aurait pas fait. Il l'a fait, pourquoi ? Parce qu'il y avait sa femme, ses enfants ou son enfant, et puis c'était impossible de se dire, je vais marcher 3 jours par moins 20 dans cet état-là. Régulièrement, il devait couper le bout de ses chaussures avec son canif parce que ses pieds gonflés, ça rentrait plus dans les chaussures. C'était horrible, quoi. Et chaque fois, juste un pas de plus. Juste un pas de plus. Juste un pas de plus. Donc ça, c'est ce qu'on doit apprendre à faire. Et puis, Paul continue et il dit ceci, verset 10. « Nous portons toujours et en tout lieu dans notre corps la mort de Jésus afin que la vie de Jésus soit elle aussi rendue manifeste par notre corps. » C'est pas pour rien que Paul dit « Notre victoire, c'est la croix ». Alors nous, les croix, c'est le machin qui décore ici avec une chaîne, c'est le truc sur le mur, c'est en gros des églises, c'est un symbole, c'est joli, c'est poétique, c'est tout ce qu'on veut. Mais c'est pas de ça qu'il parlait, même s'il n'y a rien de mal avec ça. Hein. C'est que pour que nous ayons la vie, il a fallu que Christ meure. Et puis, il y a ce passage-là, il faut passer. Hein. Et puis, lui, il est passé pour nous. Mais dans nos vies, ce principe-là s'applique aussi. Je sais que ça peut paraître difficile et pas gentil à dire, mais les épreuves que passe Pascal, c'est pas que j'aime les épreuves, mais ce que ça a fait de lui, j'aime beaucoup. Alors ouais, lui, il est dedans, il dit, ouais, ben bon, c'est gentil. Mais ça m'émerveille, et je dis pas ça en plaisantant ou je suis très très sérieux. Et évidemment que si j'avais connu une façon qui est cette transformation dans sa vie sans qu'il y ait de difficultés, je l'aurais utilisé. Hein. Si j'avais reçu en tant que pasteur une petite baguette, là, alors avec qui je peux l'utiliser ? Voilà, transformer, super. Non ? Si je l'avais, je commencerais par l'utiliser pour moi, je vous promets, mais je ne l'ai pas. Alors, on ne choisit pas, on ne veut pas, et encore une fois, tout ce qu'on peut éviter comme épreuve, il faut les éviter. Hein. On ne les cherche vraiment pas. Mais vous en faites pas, elles vous trouvent, elles nous trouvent. Et là, on doit savoir, ouais, c'est pas la fin, et hop, il y a l'autre côté. Et Paul dit, nous portons toujours en tout lieu dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi rendue manifeste par notre corps. Car sans cesse, nous qui vivons, nous sommes exposés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi rendue manifeste par notre corps mortel. Ça ne s'applique pas qu'aux gens qui souffrent parce qu'ils sont prédicateurs de l'évangile dans un pays difficile. C'était vrai pour Paul, c'était son cas. Hein. S'il était resté chez lui, dans sa famille, il aurait évité la plupart de ses difficultés. Mais pour nous qui sommes croyants, quelle que soit notre vie, ben c'est la nôtre. Dieu nous a mis là où nous sommes, nous faisons ce que nous avons à faire. Et les épreuves ont la même valeur. Il n'y a pas des épreuves plus nobles parce que je suis parti dans un autre pays missionnaire. Alors là, les épreuves, vraiment, c'est... Puis les épreuves de celui qui reste chez lui parce qu'il est à ça, elles ont... Non, l'épreuve, c'est l'épreuve. La douleur, c'est la douleur. La souffrance, c'est la souffrance. La difficulté, c'est la difficulté. Et Dieu se débrouille toujours pour mettre les choses comme il faut. Hein. Mais nous sommes exposés à la mort afin que la vie de Jésus soit rendue manifeste dans notre corps mortel. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et maintenant, on va arriver à... Ce qui m'a fait beaucoup de bien comme image, vous savez que moi j'aime les images et les choses qui sont visuelles, en plus des mots. Voilà, le charbon, bon, la photo se voit très bien, c'est pas un matériau rare ou précieux. Hein. C'est noir, ça salit, ça tache, on peut s'en servir pour plein de choses, mais c'est pas quelque chose de très précieux. Mais, photo suivante, s'il est soumis suffisamment longtemps à d'énormes pressions, ouais, je sais... C'est un poids de 200 grammes, d'accord, c'est un montage, je sais. Mais pour le petit bout de charbon dessous, c'est gros. Hein. Photo suivante, ça peut devenir un diamant, tout simplement. On passe encore à celle d'après. il peut se transformer en diamant. Alors effectivement, là, il y a eu encore d'autres choses, on va en reparler un petit peu. Hein. Celui-là, il a été taillé, poli. Et celui d'avant, il était mieux parce qu'il était brut. Hein. Celle d'après, voilà. Un diamant est seulement une pièce de charbon qui a su supporter le stress de manière exceptionnelle. Moi, je suis tombé sur cette photo, après le reste, c'est venu à l'envers, hein, mais cette semaine, et puis elle m'a fait beaucoup de bien. Parce que dans les moments difficiles, je me disais, ah, ça appuie, mais ça va faire quelque chose. Ça presse, mais il y a un. Ah, et puis, après, quand le diamant sort brut, après, il faut le tailler, ça ne va pas être agréable non plus. Hein. Après, il faut le polir, faire, etc. etc. quoi. Vous voyez, parce que donc, si ça peut vous rassurer, ça veut dire que la finition totale, ce n'est pas sur cette terre. Hein. Mais on a une vision de ce qu'il veut faire. Hein. Alors, comment faire pour supporter ce stress, ce poids, cette pression, cette oppression ? Ben, tout ce que j'ai développé jusque-là. Hein. Et puis, j'aimerais juste ajouter trois petites choses. En faisant provision de la fidélité de Dieu dans le passé. Alors, attention, là aussi, il y a un piège. On ne vit pas dans le passé, on ne regrette pas le passé, on ne veut pas revivre le passé. Il est beau, il était super quand c'était notre présent. Maintenant, c'est du passé. Il fait partie de nous, mais il n'est plus là. Hein. Par contre, se rappeler la fidélité de Dieu dans le passé pour affronter les épreuves du présent, ça, c'est biblique et c'est important. Hein. Samuel qui prend une pierre, qui la dresse après une bataille gagnée contre les Philistins, il dit, voilà, cette pierre, elle a un nom. Hein. On va l'appeler comme ça. Jusqu'ici, l'Éternel nous a délivrés. Et chaque fois que vous allez passer dans les champs et vous allez voir cette pierre, ah, jusqu'à cet endroit, Dieu nous a délivrés. Et j'imagine, je ne suis pas le seul, si je regarde derrière dans ma vie, au milieu de mes erreurs, de mes échecs, de mes bêtises, de ma paresse et de tout le reste, il y a tous ces endroits où Dieu m'a délivré, des moments où j'étais là aussi, avec un mur devant, un mur derrière, un en haut, un en dessous, où je... et puis Dieu a fait un miracle. Et je me rappelle de ça. Et je me dis, mais oui, pas de la même façon, mais ce qu'il a fait là, il va le faire encore aujourd'hui. Et on s'en rappelle. Et ça, si vous lisez les psaumes, je passe pas mal de temps dans les psaumes en ce moment, ça ressort tout le temps. Hein. Ah, nous nous rappelons ta fidélité d'autrefois. Alors on veut s'accrocher à ça. Hein, ou Jérémie, ses bontés ne sont pas... Oui, il va le faire comme il l'a fait. Là. Donc, c'est pas juste, oh, je regrette quand j'étais jeune, quand j'étais beau. Quand... Non. Mais c'est, il a été fidèle hier, ça me rappelle qu'il est fidèle aujourd'hui. Donc, apprécions la fidélité de Dieu. Deuxièmement, en ayant une vision de ce qu'il veut faire et de ce qui va en sortir. Quand vous êtes, on ne va pas revenir avec les photos, mais quand vous êtes dans la situation du charbon sous le poids, pensez au diamant. Pensez à ce qui va en sortir. Ça ne change rien, mais ça aide quand même. Et puis finalement, heureusement, troisième chose et la plus importante, on a, alors j'aime pas le mot analgésique parce que ça supprime les sens, mais la présence de Dieu, c'est un peu notre morphine dans les grosses, grosses douleurs. Hein. Je sais pas pour vous, moi je me rappelle quand je me suis fait arracher une fois 14 dents parce qu'on avait mis des implants. Hein. Ça fait beaucoup, quoi. Et puis on se réveille de l'opération, parce qu'on m'avait endormi complètement, on se réveille de l'opération, ça fait très très mal. On fait un petit signe, l'infirmière appuie sur un petit truc. Ah, j'ose pas trop le dire parce que je voulais pas faire de la pub pour l'utilisation de produits illicites, mais ça fait partie des souvenirs les plus agréables de ma vie. En moins d'une seconde, on a chaud de la pointe des pieds jusqu'au bout des oreilles, on a plus mal, on est bien. Ah. On a beau savoir quelque part que la douleur doit toujours être là, les trous dans la bouche sont toujours là, on est toujours... Mais hein, ça fait du bien. C'est incroyable comme la présence de Dieu dans les moments difficiles, en nous laissant conscients, c'est pas une drogue, hein, mais ça a le même effet. Moi, je suis toujours surpris comme on peut traverser des moments difficiles en sentant rien ou pas grand-chose, parce qu'il est là. C'est les moments où il nous porte. Hein. C'est des fois après qu'il y a les courbatures quelques jours après. Quoi. Mais dans le moment vraiment difficile, il est là. Et puis ce qu'il y a de bien, c'est que par rapport à ce dont parlait Ami ce matin, cette difficulté que lui et moi, on est les deux seuls, hein, mais on a à se discipliner pour vivre dans la présence de Dieu, parce que vous tous, c'est naturel, mais lui et moi, c'est difficile. Dans ces moments-là, ce n'est pas difficile, parce qu'on est dérangé par rien d'autre. Ça va tellement mal qu'il y a lui, lui et lui et moi. Et moi et lui. Et c'est assez incroyable parce que ça devient des moments d'une intimité, d'une beauté, d'une douceur extraordinaire. On n'en vient pas à souhaiter que ça revaille mal. Non, non, non. Mais ça permet de traverser. Ça permet de tenir et d'être paradoxalement pas si mal que ça. Hein, avec des moments d'abattement aussi, comme on l'a dit Thomas. Hein, abattu mais pas écrasé, etc. Et ça, c'est extraordinaire parce que quand on a goûté à ces choses-là, on a envie de les revivre, même quand ça va bien. Pas tout le temps, bien sûr, parce qu'il y a les parasites. Mais on en a envie, on l'a goûté. Pierre dit, si vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Pour moi, c'est toujours une chose quand je rencontre un croyant et qu'on discute et... souvent, s'il a du mal à avancer, ou il ne sait pas, il ne voit pas trop le but, ouais, chrétien, pourquoi, comment. Mais est-ce que tu as goûté combien le Seigneur est bon? Après, je réalise, c'est quand la dernière fois que j'ai vraiment goûté ça, ben, c'était dans un moment où c'était tellement difficile qu'il n'y avait rien d'autre. Hein. Mais ça reste un point de référence. Alors, on met tout ça ensemble. Et puis, on comprend un petit peu mieux pourquoi les sujets d'épreuve sont un sujet de joie. Ce n'est pas l'épreuve, ce n'est pas la souffrance. C'est pas... Mais il y a tout ce travail qui se fait, il y a le diamant qui est derrière. Et puis, ça glorifie Dieu. Hein. On dit tous facilement, le but de la vie des chrétiens, c'est de glorifier Dieu. Ouais, c'est sympa. Mais c'est là-dedans qu'il est glorifié. Parce qu'effectivement, celui qui le vit, il ne s'en rend pas trop compte. Mais ceux qui voient de l'extérieur, ils se disent, mais c'est incroyable, ce que Dieu fait dans sa vie dans ce moment-là, comment il traverse, etc. Et puis, on est encouragés les uns par les autres, par ces choses-là. Alors, heureusement, il n'y a pas que des moments comme ça. Il y a plein de moments où c'est facile, où ça va, on gambade dans les prés, puis c'est bien, blablabla. Il en faut. Hein. Mais il y a aussi les autres moments. Et puis, c'est bien, parce qu'on est le corps de Christ, justement, heureusement, normalement, ça ne tombe pas en même temps pour tout le monde. Sinon, là, ça serait grave. Et du coup, on peut, à tour de rôle, s'encourager, s'aider, se supporter, être encouragé par ce que l'autre vit, etc. Et ça nous fait du bien et ça nous permet d'aller de l'avant. Notre Dieu, on te remercie parce que, avec quelque chose d'aussi noir et d'aussi peu agréable à regarder que du charbon, tu as prévu de faire du diamant. C'est ton plan à toi. Et tu as choisi d'utiliser la pression. On aurait préféré autre chose, mais c'est comme ça. Mais merci pour ta présence dans ces moments-là, pour ton accompagnement, pour les limites que tu as mises, pour la façon extraordinaire dont tu nous prends dans tes bras, tu nous prends sur tes genoux, tu nous cajoles, tu nous fais des gros gâtés, tu nous tiens serrés contre toi pour traverser ces moments-là et puis tu nous poses un peu plus loin pour continuer à marcher tout seul et encore, ça va recommencer. Merci pour ta grande fidélité, merci pour ta bonté, merci pour ton amour pour nous. Et que nous puissions aussi être sensibles les uns aux autres, nous soutenir, nous encourager, et nous permettre de grandir en toi ensemble. Amen.